cette année 2009-2010, un lundi par mois, on pouvait se rendre à Aubervilliers, parfois au lycée Le Corbusier, parfois au théâtre de la Commune, afin de suivre la conférence d'un professeur du Collège de France. En effet, au terme d'un accord qui est intervenu en 2006 entre le Collège de France et la mairie d'Aubervilliers, quiconque le souhaitait pouvait venir écouter un des très savants professeurs du Collège de France proposer de façon vivante et claire une intervention destinée à de jeunes élèves en compagnie de leurs professeurs et à un large public intéressé à connaître et à comprendre le monde qui nous entoure. Cette année, le thème de la réflexion choisie était « Les grandes civilisations ». L'intitulé de ces conférences propose donc de nous faire connaître les dispositifs les plus variés que les peuples se sont donnés pour extraire l'humanité de sa barbarie, mais également les diverses manières dont ces dispositifs ont été interprétés, repris, récupérés, réorchestrés au fil du temps. Le but de ces rencontres est, comme l'explique Carlo Ossola, lui-même professeur au Collège de France, de délocaliser sous forme de conférences thématiques quelques-uns des enseignements du Collège, afin d'ouvrir des espaces de partage sur des thèmes de portée universelle et aptes à mettre en dialogue les différents savoirs et sensibilités culturelles présents dans le monde d'aujourd'hui. France Culture a donc décidé de diffuser chaque samedi et dimanche soir du mois d'août l'ensemble de ces manifestations. La réalité dépasse la fiction, dit-on, et nous allons voir à quel point cet adage dit vrai. Loin des images et des idées reçues, loin du mythe si sympathique pourtant du valeureux Gaulois résistant aux méchants Romains, tel que nous le montre encore aujourd'hui l'excellent Astérix, Christian Goudineau, titulaire au Collège de France de la chaire consacrée aux antiquités nationales, met en pièce les clichés qui ont fait les beaux jours de nos représentations identitaires. Son objectif est, écrit-il, de faire avancer l'analyse et la réflexion sur des sujets qui mettent en relation la Gaule et notre monde actuel. Que veut dire la Gaule? Comment est-elle née? Qu'était-elle? Quel fut le rôle du conquérant, César? Comment se sont créés des mythes, des images, des héros? Et le héros parmi les héros est bien Vercingétorix, dont tous ceux qui prétendaient à l'héroïsme se sont réclamés. C'est de lui, ou plutôt de la véritable histoire de ses multiples légendes, que nous parle ce soir Christian Goudineau. Écoutez.
Alors nous commençons par Jules César, parce que nous allons nous situer dans l'année 52 avant Jésus-Christ. Jules César est né en 100. Par conséquent, vous voyez l'âge qu'il peut avoir, 48 ans, et il s'est lancé dans la conquête de ce qu'on appelle la Gaule, ou plus exactement de ce que lui a appelé la Gaule, car il nous a indiqué que la Gaule était limitée d'une part par l'océan Atlantique et d'autre part par le Rhin. C'est-à-dire que César a fait, comme beaucoup de conquérants, délimiter un pays en disant « j'ai conquis quelque chose d'homogène », alors qu'en réalité, ce n'était pas du tout le cas. La Gaule, lorsque les géographes et les ethnographes parlaient d'elle, en langue latine, voulait dire la même chose que ce que les ethnographes grecs désignaient sous le terme de « celtique »,« celtique », c'est-à-dire un ensemble de peuples sans aucune homogénéité, qui s'étendait de l'Atlantique jusqu'au-delà de la région de Budapest. Donc il y avait 100, 120, peut-être 130, on ne les connaît pas tous. Les mieux connus sont évidemment ceux que décrit César, qui étaient chacun des entités en théorie autonomes, même si parfois les uns étaient soumis à d'autres, ou se créaient des réseaux d'alliances ou des réseaux matrimoniaux, etc. etc. Donc, considérons que la Gaule, telle que nous l'entendons aujourd'hui, est une pure création de César, qui, lorsqu'il a terminé sa conquête, a dit « la Gaule s'arrête au Rhin ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 70 ans à peu près, depuis 120 avant Jésus-Christ, le Midi de la Gaule avait déjà été conquis par Rome, et que César intervint en Gaule intérieure au titre de gouverneur de cette province, une province qui lui était échue un an après le consulat qu'il avait exercé en 58. Simplement pour balayer quelques idées préconçues, qu'est-ce que la Gaule à cette époque ? Contrairement à l'idée qui peut tourner dans nos têtes en raison de vieilles images des manuels scolaires, reprises d'ailleurs par Astérix, moi ça m'est arrivé de connaître Goscinny il y a 25 ou 30 ans, qui m'a dit que, évidemment, c'était pour se moquer des Français ou des Européens actuels qu'au troisième ou quatrième degré, il s'était inspiré de ces manuels scolaires et de vieilles idées, c'est-à-dire une Gaule couverte de forêts où on ne fait que de la chasse, c'est-à-dire une idée qui est fausse depuis déjà 3000 ans, qui remonte au néolithique. Donc, en réalité, ce que nous savons, à partir des photos aériennes, notamment, c'est que la Gaule, à l'époque césarienne, était une terre agricole très riche, couverte de fermes dont les traces, vous voyez, peuvent ressurgir sur ces photos qui nous permettent donc de reconstituer de grands bâtiments avec des clôtures, avec des champs. Et nous avons même pu faire des opérations d'archéologie expérimentale, c'est-à-dire qu'à partir de ces formes de paysages, à partir de graines, à partir de la paléobotanique, eh bien, on peut savoir quelles étaient les cultures qui étaient les cultures principales de l'époque. Ce sont essentiellement des céréales et des légumineuses. C'est une forme de blé, par exemple, qui n'a pas assez de gluten pour permettre de faire du pain, mais qu'on mange plutôt comme nous on mangerait les flocons d'avoine. Beaucoup de lentilles, beaucoup de haricots, toutes sortes de légumineuses. Et en ce qui concerne les ossements animaux qu'on retrouve par millions dans nos fouilles, eh bien, on peut faire le tri entre les espèces, et là, on s'aperçoit que la chasse est absolument dérisoire. Au mieux, c'est 1%, et c'est un sport, comme un sport de noble, comme un petit peu à notre époque, ou chez les Anglais du 19e. Et ce que mangent les Gaulois, c'est essentiellement du bœuf, disons, dans le centre de la Gaule, beaucoup de cochons, et parfois, dans le nord, on mange aussi les chevaux, une fois qu'ils ont servi. Le Midi, la chèvre, le mouton, bien entendu, mais comme je vous ai dit, c'est déjà une province romaine. Donc, une Gaule semée d'exploitations agricoles, mais c'est, grâce à la photo aérienne, on peut en retrouver tous les 500 mètres. C'est un maillage extraordinaire. Et puis, de temps en temps, dans les campagnes, d'énormes constructions, un fossé entourant l'une de ces grandes constructions, et on estime que ce sont les chefs de grands aristocrates à la tête d'énormes domaines agricoles avec beaucoup de paysans qui habitaient quelque chose qui nous fait penser pratiquement à de futurs châteaux forts, des modes féodales qui vont devenir des châteaux forts. Bon. Donc, des fermes, des espèces de citadelles rurales, et puis des villes. On a longtemps hésité à employer ce terme, mais les fouilles récentes reprises, par exemple à Bibrac, nous ont montré les ruines d'un rempart et la reconstitution peut être conçue comme celle-là, avec, vous voyez, une énorme voie qui entrait dans la ville, c'est l'équivalent d'une route nationale à quatre voies, une grande porte, des remparts faits à la fois de terre et de poutres de bois, et à l'intérieur, eh bien, des maisons le long des voies et puis évidemment un intérieur un peu plus clairsemé éventuellement, avec là aussi quelques pâturages permettant en cas de coup dur de faire venir les troupeaux à l'intérieur de la défense. Enfin, il faut nous débarrasser de l'idée de la petite Gaule au sens césarien recroquevillée sur elle-même, comme nous le montre Astérix, et sans lien avec le monde extérieur. Au contraire, l'archéologie sous-marine nous a fait retrouver des épaves qui sont en très grand nombre entre 150 avant Jésus-Christ et, disons, l'époque césarienne. Et on a calculé qu'il pouvait y avoir chaque année 1 million d'amphores qui étaient transportées depuis l'Italie jusqu'en Gaule, chacune transportant 25 litres de vin, 1 million par an, 25 millions de litres. Donc, vous voyez, un commerce qui était un commerce florissant. Le vin venait pour alimenter les tables des aristocrates, mais aussi ceci organisait de très vastes banquets rituels en l'honneur des dieux d'abord, et aussi pour offrir à leurs concitoyens ou à leurs sujets, n'hésitons pas devant le mot, pour montrer tout simplement qu'ils étaient les meilleurs. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on envoyait en Italie ou dans d'autres pays? On envoyait des métaux, on envoyait sans doute des produits agricoles, mais l'essentiel, c'était des esclaves, des prisonniers de guerre faits sur les peuples voisins ou des criminels qu'on avait prélevés à l'intérieur de son propre peuple. Enfin, en ce qui concerne les aristocrates gaulois, il faut tout à fait revenir sur l'idée des chefs hirsutes, poilus, barbus, etc. On a des représentations, aussi bien en statue que sur les monnaies, qui nous montrent des chefs qui sont glabres, qui sont rasés comme à Rome, avec un soin particulier pour leur chevelure, et puis un certain nombre d'armes ou d'instruments qui permettent de mieux les définir. Et alors, le genre d'objets symboliques qui les accompagnent, ce sont des grandes enseignes, donc au bout d'une hampe, représentant un sanglier ou une autre... ou un autre animal, et puis surtout la grande trompette gauloise, la carnix, qu'on avait jusqu'à présent que dans des représentations avec une tête de dragon. Or, une fouille il y a 3 ans vient de trouver un amas d'objets en bronze en Corrèze, dans un petit sanctuaire de Corrèze. Et vous voyez, on est en train de le fouiller, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des fragments d'enseignes, des fragments de ces trompettes de guerre, et on s'est aperçu que ces trompettes, les représentations n'en donnaient pas toute la richesse, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait une langue à l'intérieur, fixée par de petits rivets, et des lames métalliques dans les oreilles. Ce qui fait que quand on soufflait dans cette trompette, il y avait la langue qui faisait bleu, 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 les oreilles qui bougeaient, et les auteurs anciens nous disent que la trompette provoquait un bruit absolument épouvantable qui glaçait les ennemis de terreur. Alors, on revient à César. Donc, je vous l'ai dit, on est en 52 avant Jésus-Christ. Ça fait la 7e année de guerre, il est là depuis 58. Et pendant les premières années, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, avec l'aide de peuples du Midi, mais aussi l'aide de tous les grands peuples du centre, qui étaient ses alliés pendant des années, il a essayé de mettre à raison les peuples périphériques, ceux dont je montrais il y a un instant qu'ils avaient échappé ou qu'ils échappaient à la domination économique méditerranéenne. Donc, quels que soient les prétextes engagés ou fournis, c'est en réalité une belle et bonne conquête économique qui s'est lancée pendant ces années-là. Je ne dirais pas que ça sentait le pétrole, hein, ça sentait plutôt le vin. c'était le vin qu'il fallait écouler. Il y avait d'énormes domaines en Italie en pleine surproduction. Donc toute l'aristocratie des peuples du centre et des peuples du midi était à côté de César, lui fournissait des cavaliers, lui fournissait des vivres, lui fournissait des guides, et on a essayé de mettre à raison tous les peuples périphériques. Et puis ça s'est passé moins bien que prévu, il y a eu des résistances, il y a eu des combats difficiles, et en 52, alors que César est allé prendre ses quartiers d'hiver en Italie du Nord, eh bien, il apprend qu'une révolte éclate, et il la raconte lui-même de la manière suivante, Vercingétorix, fils de Celtilos, Arverne, jeune homme qui était parmi les plus puissants du pays. En réalité, si on va voir les textes, on s'aperçoit que le mot, c'est adolescens. Et c'est comme ça que ça a été toujours traduit, jeune homme ou petit jeune homme ou adolescent. Mais en latin, le problème, c'est que ça ne veut pas du tout dire ça. Un adolescens, en latin, c'est quelqu'un qui n'a pas exercé encore de magistrature. Or, le plancher pour exercer une magistrature, c'est minimum 30 ans. Donc tout ce qu'on peut tirer normalement de ce texte, c'est qu'il avait peut-être moins de 30 ans, et qu'en tout cas, il n'avait pas exercé de magistrature. Donc, Vercingétorix fomente une révolte dans le pays Arverne. Je vais aller très vite sur les événements. Fédère d'abord les peuples qui, vous voyez, sont les peuples périphériques, dont on a parlé tout à l'heure, en grande partie. Puis ensuite, va se faire rejoindre par bien d'autres. Alors, en deux mots, les campagnes. César avait ses troupes qui étaient du côté de Sens. Il va, la révolte a éclaté à Orléans, Kenaboum. Il y a eu un acte très fort où les Carnutes, c'était le peuple qui avait Orléans comme l'une de ses grandes villes. Donc c'est ce peuple qui avait, pour donner un signal fort, mis à mort les négociants romains, installés dans cette ville. Donc César prend la ville d'Orléans, puis descend jusqu'à Bourges. Pourquoi ? Parce que, nous dit-il lui-même, Vercingétorix s'est mis à utiliser des stratégies qu'aucun chef gaulois n'avait jusqu'alors employées. La première, fortifier les camps. D'autre part, faire régner une discipline de fer. Et enfin, politique de la terre brûlée. C'est-à-dire, on rase les fermes, on fait brûler les greniers, on fait brûler les villages. Il faut que César soit affamé. N'oubliez pas que l'armée de César, c'est 12 légions. 12 légions, ça fait 48 000 hommes, 50 000 par là. Il faut prévoir autant de valets, de palefreniers, de muletiers, de gens de l'intendance, etc. Donc ça fait pas loin de 100 000 hommes. Et il faut nourrir tous les jours 100 000 hommes. C'est 500 tonnes. Donc, vous imaginez tout ce qu'il faut. Et une fois que la technique de la terre brûlée et de la guérilla se met en marche, César est démuni. Or, une seule ville a été épargnée, c'est la ville de Bourges, qui est considérée comme la plus riche de toute la région, regorgeant de vivres. Que fait donc César ? Il va y mettre le siège. Bourges est bien défendu, un gros rempart. Vercingétorix est derrière. Qu'est-ce qu'il attend ? Ben, il attend que son armée soit un peu plus expérimentée. Et il attend aussi que l'armée de César se démoralise. On est en mars, il y a des giboulées, il fait froid, les vivres manquent de plus en plus. Bon, mais César fait construire une terrasse gigantesque, avec une terrasse sur rouleau, sur roue, avec de grandes tours en bois, un parapet sur les tours, un toit. Les soldats montent et peuvent surmonter les murailles de Bourges. Ils criblent de flèches, de balles de catapultes, etc., les défenseurs, s'empare de la ville, Vercingétorix n'a pas attaqué, César a gagné. Et donc il se refait. Vercingétorix va filer, à ce moment-là, toujours en refusant la bataille rangée, qu'il a peur de perdre, à Gergovie. Donc Gergovie, au sud de Clermont-Ferrand, qui est sa capitale. César, lui, fait un détour. Et il fait un détour parce qu'il a appris que le pays éduin, celui dont la capitale est Bibracte, les plus anciens alliés de Rome depuis au moins 100 ou 150 ans, les Éduins menacent de faire défection. Pour lui, ce serait un coup dur absolument épouvantable. Donc il se rend chez eux, essaye de les convaincre, et puis redescend vers Gergovie, et là, de nouveau, il va mettre le siège. Gergovie, on est au sud de Clermont. Donc César met le siège devant Gergovie, nous dit qu'il fait un assaut, qu'il considère avoir donné une bonne leçon aux Gaulois et qu'il s'en va. En réalité, ce qu'on apprend au détour de certaines phrases, c'est que sa tentative de garder les bonnes grâces des Éduins a échoué et que les Éduins sont en train de rejoindre la conjuration. Par conséquent, si lui est bloqué à Gergovie, en train de mettre le siège et que les autres lui tombent par derrière, le danger est grand. Vercingétorix, considérant avoir gagné, se rend à Bibracte, où il va se faire reconnaître désormais officiellement par à peu près tous les peuples de Gaule comme le roi ou le commandant en chef de l'insurrection. Et César, lui, remonte vers le haut, où il rejoint son lieutenant Labienus, qui, lui, avait conduit une bataille vers des peuples du Nord qui s'était terminée à Lutèce par la victoire des Romains. Les conditions sont de plus en plus difficiles pour César. Il n'a plus de cavalerie. Il est obligé de faire appel à des mercenaires de l'autre côté du Rhin. Il manque de plus en plus de vivres et donc il décide de rejoindre soit sa province de Gaule transalpine, soit l'Italie. On ne sait pas exactement quelles étaient ses intentions, pour la simple raison que Vercingétorix vient interrompre la descente de César vers le sud, lui impose une bataille de cavalerie que César remporte de peu grâce à ses mercenaires germains, et Vercingétorix va s'enfermer à Alésia, ici même. Donc, à mes yeux, il ne fait strictement aucun doute qu'Alésia soit bien Alice Saint-Reine. On en a toutes les preuves, on a les fouilles du siècle dernier, on a le matériel archéologique, des milliers de monnaies, des milliers d'armes. On a aussi une inscription, voilà, une inscription en gaulois, transcrite en caractère latin, qui se termine par « in Alésia ». Alors, Alésia, le plateau des Lômes, César va entourer ce plateau donc d'une double ligne. Une qui est tournée vers le plateau lui-même pour assiéger, et l'autre vers l'extérieur, car il sait que Vercingétorix, une fois enfermé là, a fait lever une armée de secours qui est en train de se constituer en Gaule et qui va venir lui tomber sur ses arrières. Donc des fossés, des palissades. On a fait une grande série de campagnes franco-allemandes il y a une dizaine d'années et qui ont retrouvé certaines parties de ces lignes, permettant donc des reconstitutions qui sont des reconstitutions fidèles. En outre, on a eu la chance de retrouver un certain nombre de balles de fronde en plomb. Et les balles de fronde à cette époque-là, à la fin de l'époque républicaine, étaient moulées. Et par esprit humoristique, les généraux qui employaient des corps de frondeurs, qui entre parenthèses étaient la spécialité des îles Baléares, bon, peu importe, eh bien, mettaient des inscriptions. Alors ça pouvait être du genre « toi qui vas recevoir ça, j'espère que ça te fera le plus grand bien ». Ou d'autres mettaient le nom du général. Et ici, on voit l'habit Et c'est évidemment Labienus, le numéro 2 de César. Alors voilà comment ça se passe. Vous vous rappelez ce qui se produit. L'armée de secours arrive très très tard. César la met en déroute, mais il s'en fout de peu, et Vercingétorix va se rendre. Et on a un texte qui est tout à fait intéressant, qui est d'un auteur du IIIe siècle après Jésus-Christ, un grand personnage, un sénateur d'origine grecque, qui fut gouverneur de province. Et ce sénateur, après avoir exercé toutes sortes de responsabilités, se mit à écrire un livre d'histoire. Et c'est la seule source que l'on ait qui soit indépendante de César. Il a dû consulter d'autres auteurs. Et alors il nous dit ceci: Vercingétorix aurait pu s'échapper car il n'avait pas été capturé et resté sans blessure. Mais espérant, car il avait autrefois été en amitié avec César, pouvoir obtenir son pardon, il alla le trouver sans s'être fait annoncer. Et alors là, voilà quelque chose qui nous fait tilt. Parce que la question qu'on pouvait se poser depuis le début, c'est comment Vercingétorix a-t-il appris l'art de la guerre? Comment a-t-il appris à fortifier les camps? Comment a-t-il appris la technique de la terre brûlée? Comment a-t-il appris à former des légions? Et la stratégie qu'il a suivie, c'est une stratégie qui est une stratégie tout à fait romaine et classique. C'est ce qu'on appelle l'abcès de fixation. On vous bloque à un endroit précis et on va venir vous prendre par l'arrière, à Bourges. César veut Bourges, il l'entoure, et Vercingétorix, une fois les troupes démoralisées, peut venir attaquer. Ça n'a pas marché. Mais à Gergovie, pareil. César bloque, les Éduains vont arriver par derrière. Alésia, pareil. Il est autour d'Alésia. Et l'armée de secours va venir, et on espère qu'elle va l'emporter. Alors, la conclusion qu'on peut tirer d'un tel texte, c'est que, vraisemblablement, Vercingétorix a été dans l'état-major de César pendant les premières années de la guerre des Gaules. Qu'il était l'un des jeunes chefs alliés de César, qui était en même temps peut-être une garantie, je ne dirais pas un otage, et qui, avec lui, a appris l'essentiel de ce qu'il a su. Donc, encore un an, mais la Gaule est vaincue, César l'a emporté. Et pendant des siècles, on ne parlera plus ni de Vercingétorix ni des Gaulois. Celui qui compte, c'est César. Les Francs, d'où sort la noblesse, avec les mythiques Mérovée et surtout Clovis et les successeurs, n'accordent aucune espèce d'intérêt à ces barbares. En revanche, César va être lu, relu, commenté. C'est un des livres de chevet des petits dauphins de France. Henri IV l'a traduit, Louis XIII en a traduit un chapitre, Louis XIV a fait un commentaire, etc., etc. Là, il trouvait de superbes leçons d'art militaire et des leçons d'art politique. Alors, comment est-ce que les Gaulois sont redevenus un peu sur le devant de la scène? Bien, de manière extrêmement curieuse. Tout commence au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle en Angleterre, par la redécouverte des monuments mégalithiques, c'est-à-dire les grands ensembles comme Stonehenge, ou comme Avebury, ou comme en Bretagne, Locmariaker ou Carnac. Et donc il y a une théorie qu'un certain William Stockley développe en Angleterre, selon laquelle ces grands monuments mégalithiques, c'étaient les temples des druides. Vous voyez, « The history of the temples of the ancient Celts ». Donc les Celtes, les druides, les Gaulois, tout ça va ensemble. Et ça a d'autant plus de succès que très vite s'organisent des mouvements druidiques et qu'il y a de grandes cérémonies qui sont faites à Stonehenge dès le début du XVIIIe siècle. Voilà quelque chose qui remet les Celtes et les Gaulois à l'ordre du jour. Et puis, aux alentours de 1765, il y a une œuvre tout à fait étrange qui va d'ailleurs marquer la littérature moderne de façon profonde. un certain James Macpherson, un Écossais, publie un petit livre qui est, dit-il, la traduction en anglais de mythes, de chansons, de poèmes qu'il a recueillis en se baladant dans les montagnes ou dans les landes ou dans les forêts d'Écosse, d'Irlande et du Pays de Galles. Que dit ce poème ? Eh bien, ce sont les chants composés par un barde celte, un barde gaulois, qui en même temps est un grand guerrier, et qui vit au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et alors, il raconte sa vie, ses combats, l'atmosphère de son temps. Et cet homme s'appelle Ossian. Et le tableau qu'il dépeint, c'est un tableau qui va s'imposer avec une force incroyable. C'est la nature déchaînée, c'est les mégalithes, c'est les druides échevelés, c'est le chêne, le gui, mais en même temps la pureté, en même temps l'amour, la violence. Enfin, c'est ça, le phénomène qu'on appelle l'ossianisme et qui est le véritable pré-romantisme. Et c'est cet océan qui, du coup, redonne aux Gaulois et aux Celtes une popularité qu'ils n'avaient absolument pas, et ça par le biais de la littérature. Alors arrive la Révolution française. La Révolution française ne s'occupe guère des Celtes ni des Gaulois. Elle se réclame plutôt de la République romaine ou de Sparte. À une exception près, l'abbé Sieyès, celui qui a écrit « Qu'est-ce que le tiers état ?», tient le raisonnement suivant. La noblesse, ses privilèges, ils viennent de la conquête franque, ils viennent du droit de conquête. Mais qui les Francs avaient-ils conquis ? Ben, ils avaient conquis les populations qui étaient là. Et ces populations, c'était quoi ? Eh bien, c'était un mélange de Romains et de Gaulois, les Romains ayant conquis les Gaulois. Et donc, est-ce que l'origine du peuple, ce ne serait pas les Gaulois ? On va y revenir, ça va jouer son rôle dans un instant. Mais revenons à Ossian. Celui qui fait la synthèse entre, d'une part, le mégalithisme et, d'autre part, l'ossianisme, c'est M. de Chateaubriand. En 1805, il publie « Le génie du christianisme », dont un tome s'appelle « Les martyrs ». Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? La scène, enfin l'histoire, se passe au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il y a un jeune gouverneur romain qui s'appelle Eudore et qui est envoyé gouverner l'Armorique. Il s'installe dans une citadelle, Condate, qui est l'actuelle Rennes, et s'aperçoit très vite qu'il y a des mouvements bizarres qui se produisent dans la région. Il s'informe et il apprend qu'une jeune femme, de temps en temps, quitte en secret la citadelle et se rend en des lieux qu'il ignore. La jeune femme en question, qui s'appelle Véléda, est la fille d'un grand druide. Alors il décide de la suivre. Il voit qu'elle se fait ouvrir une poterne, elle traverse une campagne, elle arrive au bord d'un lac, elle s'embarque sur un frêle esquif, comme dit Chateaubriand. Eudore réussit à trouver lui-même un bateau, la suit, il débarque dans une île couverte de forêts, et puis au milieu de la forêt, une carrière avec des dolmens, et là, le papa druide qui s'apprête, au milieu de plein de gens en blanc, à effectuer un sacrifice humain. Le roman tourne autour du fait que Eudore est un des premiers chrétiens et que Véléda, qui est à la fois charmante, cultivée, parlant le grec, le latin, etc., est païenne. Que va-t-il arriver ? Je vous laisse le soin d'aller relire Monsieur de Chateaubriand. On arrive à la Restauration, après Napoléon. À l'époque de Louis XVIII, il y a floraison de jeunes historiens. Et parmi ces jeunes historiens, eh bien, il y a Augustin Thierry et son frère Amédée. À l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire aux alentours de 1825-27, ils n'ont pas 30 ans. Ils sont venus de leur province très tôt. Ils vivent de divers boulots, dans des gazettes. Augustin était le secrétaire du comte de Saint-Simon, avant de se fâcher avec lui. Et Amédée Thierry va lire pour la première fois tous les textes concernant Celtes et Gaulois. Ce qu'il faut démontrer, c'est que son pays a une légitimité qui s'ancre au plus profond, qu'il a un sol bien déterminé depuis longtemps, qu'il a des ancêtres que l'on peut nommer. Et c'est bien ce que Thierry va retrouver avec tous les auteurs anciens, et au premier rang desquels Jules César. Jules César dit « La Gaule, ça va jusqu'au Rhin. Bon, point de ligne. Les Gaulois, c'est les plus anciens habitants. Point de ligne. Nous, on a ça, contrairement à tant d'autres peuples. » Thierry va écrire cette histoire des Gaulois, et il va aussi tomber sur la guerre des Gaules et sur Vercingétorix. Or, il faut voir que les deux Thierry sont très liés au romantisme. Ils sont très liés à Victor Hugo, sont liés à Vigny, sont liés à Musset. Et au fond, Vercingétorix, c'est quoi? C'est un Hernani, c'est un Ruy Blas. C'est un jeune héros qui a appelé comme ça à la révolte, qui a donné sa vie et qui est tombé victime de l'oppression de la même manière qu'Hernani ou Ruy Blas. Et puis arrivent les Trois Glorieuses, Louis-Philippe, roi des Français, le drapeau tricolore. Et c'est à cette époque que l'on dit que les historiens ont été au pouvoir, ce qui est loin d'être faux. Le Premier ministre a été Guizot, qui était un historien. Mais il y a quelque chose qui a énormément marqué et qui nous marque encore. Ce monsieur, il s'appelle Henri Martin. C'était un jeune Picard qui était né en 1810 à Saint-Quentin. À 20 ans, il se barre de Saint-Quentin, il monte à Paris, il arrive la veille des Trois Glorieuses. C'est la Révolution, avec d'autres. Et là, il se lie à différents milieux, et notamment avec un fameux bibliophile qui s'appelle Jacob. Et ils ont tous les deux l'idée d'écrire une histoire de France qui irait depuis les Gaulois jusqu'à la Révolution de 1830. Il commence par faire une histoire qui serait composée d'extraits de différents auteurs. Bon, et puis Martin trouve que c'est moche, et donc se lance lui-même à écrire son histoire. Et il a cette idée géniale de remplacer les phases principales de l'histoire de France, qui autrefois étaient celles des dynasties, par des héros. Et c'est là qu'on voit apparaître Jeanne d'Arc, Louis XI, etc., jusqu'aux soldats d'ennemi. Et le premier héros, bien entendu, c'est Vercingétorix. Et puis, Napoléon III décide d'écrire une histoire de Jules César. Pourquoi ? Il ne s'en cache pas, il le dit dans sa préface, pour démontrer que le césarisme fait le bonheur des peuples. Napoléon est un homme sérieux, et il décide de suivre la vie de Jules César du début jusqu'à la fin. Il consacre un premier tome depuis la naissance de César jusqu'à son consulat et un deuxième tome à la guerre des Gaules. Il y a ce personnage qui est un Suisse qui s'appelle le commandant Stoffel, qui était un aide-de-camp de Napoléon III, militaire et historien dans l'âme, et auquel Napoléon III a confié les travaux archéologiques pour aller rechercher avec le plus de certitude possible l'emplacement de Gergovie, d'Alésia, de Bibracte, etc. Alors, je fais une petite parenthèse. Si par la suite, il y a eu, et il y a toujours, tant de querelles sur les identifications, c'est purement et simplement parce que, relayé par les instituteurs de la Troisième République, qui haïssaient le Second Empire, il y a eu ce message, on a voulu nous imposer une vérité officielle. Et ça rôde encore dans les mémoires. Alors que l'opération Napoléon III a été une opération historique qu'on peut juger comme véritablement impeccable. Napoléon III, sur sa propre cassette, commande à Aimé Millet, qui est un bourguignon, c'est cette gigantesque statue qui va être mise tout en haut du Mont-la-Soie. Elle fait, sans le socle, elle fait 8 mètres de haut, elle est transportée sur des fardiers, le malheureux Vercingétorix se prend le nez, la tête dans les fils télégraphiques, qui tombent plusieurs fois. On a des magazines de l'époque qui nous montrent les vieilles dames se prosternant, sachant pas qui c'était, en disant « Saint-Gétorix, prie pour nous », etc. Donc du folklore absolu. Et la grande inauguration, donc en 1868, sur le site d'Alésia. Et voilà comment la tête qu'avait le Vercingétorix de Millet. Et c'est là que tout change par rapport à la représentation traditionnelle. Pourquoi ? Eh bien, quand on regarde les magazines de l'époque, Millet a pris des volets de bois vert, on a considéré que c'était un courtisan ignoble qui avait donné à Vercingétorix les traits de Napoléon III. Et qu'il l'a gardé. Entre 70 et 1914, c'est le déchaînement, on peut dire, de Vercingétorix, des Gaulois, enfin de tout un mélange des héros de l'histoire de France. Avec ce plâtre, il ne reste que lui, malheureusement, qui était la préfiguration d'une œuvre d'un dénommé Charousse, qui faisait 12 mètres de haut, un bronze en haut relief, qui a été placé dans l'église de Ham, dans le Nord, et qui a été détruit lors de la Première Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit Vercingétorix et Jeanne d'Arc se serrer la main. Hein, et derrière, il y a marqué « Aux martyrs de la Résistance ». Autre événement qui a beaucoup compté, c'est à cette époque, fin Napoléon III, début Troisième République, que paraissent un certain nombre de petites feuilles de choux, si j'ose dire, qui sont illustrées par des estampes. Et ces articles, ultérieurement, seront réunis. Ça vous donnera des choses que vous avez peut-être encore chez vous ou dans les greniers de famille, savoir histoire populaire de la France, etc. Et c'est là donc que des anonymes, la plupart du temps, se voient commander des estampes qui vont illustrer certaines scènes fameuses parce qu'elles vont passer bientôt directement dans les manuels. Une scène de sacrifice humain chez les Gaulois, avec toujours les dolmens, le gui, etc. Et vous voyez la fameuse scène de la reddition de Vercingétorix, sur laquelle je reviendrai plus tard. Sa première représentation, c'est dans une estampe. La reddition telle que Lionel Royer la peinte, qui se trouve au musée du Puy-de-Dôme, et ça fait 8 mètres de large. C'est même pas dans une salle, il n'y en avait pas d'assez grande. On l'a mis dans l'escalier d'honneur. Et là encore, c'est très intéressant, parce que il faut réfléchir au message idéologique. Napoléon III, lorsqu'il a conclu son histoire l'histoire de la guerre des Gaules, son tome 2, disait « Vercingétorix est mort en héros, avec vaillance, etc. » Mais il ajoutait « Mais heureusement qu'il a perdu. Sinon, on ne serait pas devenu romain. On n'aurait pas connu la civilisation, l'ordre, la loi, etc. Hein, » ces gens-là, quand même, malgré tout, c'était des barbares. Heureusement qu'on a perdu. Mais on a perdu avec panache. Et Alésia n'a pas empêché la Gaule de devenir ultérieurement la France. Et c'est le message qu'on trouve partout. Alors, Vercingétorix, vous voyez, arrive à cheval, jette ses armes aux pieds de César, et qui est le plus noble, qui est le plus beau, qui est le plus vaillant, manifestement, c'est le Gaulois. Et quelqu'un va jouer un rôle tout à fait important. C'est un personnage qui s'appelle Ernest Lavis. Les historiens le connaissent bien, c'est ce qu'on appelle le fondateur de l'histoire positiviste. Lavis a aussi eu le souci d'instruire les jeunes. Et ce petit Lavis, qui a eu des milliers de rééditions, qui est un des best-sellers sans doute de l'édition française, qu'est-ce qu'il nous montre ? Voilà, regardons. Alors, il nous montre en haut un banquet gaulois. Hein, banquet gaulois, puis abrégé de l'histoire, leur explication préparatoire, qu'est-ce qu'un peuple barbare ? Qu'est-ce qu'un peuple barbare ? C'est les Gaulois. Qu'est-ce qu'un peuple civilisé ? C'est le contraire du peuple barbare. Et on nous montre le début de la guerre des Gaules. Les Gaulois étaient indisciplinés. Les Gaulois étaient donc des barbares, troisième paragraphe, mais ils étaient braves, intelligents et gais. Je ne sais pas d'où il sort ça, mais bon, c'est pas mal. Alors, à la guerre, ils attaquaient l'ennemi avec impétuosité, indiscipline, donc ils se font battre par les Romains. Avant les Romains, les Gaulois habitaient de pauvres villages composés de huttes, de terres, etc. Au temps des Romains, de belles villes furent bâties avec des monuments, dont plusieurs existent encore. Les riches Gaulois habitèrent de belles maisons, etc. Et puis, il y a le christianisme. Alors, ça, c'est le message de l'école publique. Mais il y a un autre volume qui a été encore récemment réédité, qui a eu un succès colossal, vous savez. C'est le Tour de France par deux enfants, deux petits orphelins de Lorraine, les parents tués à la guerre de 70, ils prennent leur baluchon, ils vont aller vivre de petits boulots, donner des petits coups de main, et comme ça, ils vont parcourir la France entière, et ils arrivent en Auvergne. Et là, on va parler de Vercingétorix. Il y a eu parmi nos pères et mères, dans le passé, des hommes et des femmes héroïques. Le récit de ce qu'ils ont fait de grand élève le cœur et excite à les imiter. La France, notre patrie, était, il y a bien longtemps de cela, presque entièrement couverte de grandes forêts. Il y avait peu de villes et la moindre ferme de votre village, enfant, vous y semblait sublime, enfin bon, un truc comme ça. Et puis, on raconte l'histoire de Vercingétorix, et à la fin, donc celui qui la raconte dit « Enfant, réfléchissez en votre cœur, demandez-vous lequel de ces deux hommes dans cette lutte fut le plus grand. Laquelle voudriez-vous avoir, vous, de l'âme héroïque du jeune Gaulois, défenseur de vos ancêtres, ou de l'âme ambitieuse et insensible du conquérant romain ?» Questionnaire qu'on peut dire légèrement orienté. Bon. Bien entendu, ce type de discours est tout à fait en harmonie avec le phénomène, les grandes campagnes de colonisation. Heureusement que la France, comme Rome a fait pour la Gaule, vient apporter la civilisation aux autres peuples. Et puis on a à la fin de ce 19e siècle une chance, c'est l'apparition de la pub. C'est les premières pubs de marque qui vont donc se servir de certaines images. Alors c'est très amusant de voir à quoi servent les Gaulois. Alors ils servent au pétrole de luxe parce qu'ils ont de beaux cheveux. L'élixir, parce qu'il picole. Vous avez même des filets de morue vers Vercingétorix, parce que ça vous rend costaud. Et puis, il y a les fameuses gauloises. Alors, les fameuses gauloises, il faut savoir qu'elles n'étaient pas du tout gauloises à l'origine. Les cousues, comme on dit, les cigarettes cousues, qui ont remplacé la carotte à chiquer, sont apparues aux alentours de 1885. Et au début, on leur a donné pour les lancer des noms exotiques, du genre les bohémiennes, les gitanes, qui existent toujours. Et puis, on a distribué, évidemment, vous avez de nouveau le Gaulois avec un casque complètement anachronique. Et puis c'est à nos bons poilus qu'on a distribué les Gauloises lorsqu'ils sont partis à la guerre fraîche et joyeuse qui a donné ce que nous savons. Et après la guerre, eh bien, les Gaulois, on va les retrouver en grande partie, eux ou leurs emblèmes, y compris Vercingétorix, sur des monuments aux morts. Rien ne change entre les deux guerres, toujours la même floraison de romans minables, il faut bien dire, de tableaux pompiers, de quelques statues, encore des opéras. Et puis arrive la Deuxième Guerre mondiale, et vous savez que le maréchal Pétain, qui s'installe à Vichy, a fait abondamment appel à l'idéologie qu'il considère représentée par Vercingétorix et par la défaite d'Alésia. D'une défaite peut naître un bien, acceptons la nôtre, construisons un ordre nouveau. Et extrait d'une gazette de l'époque, à droite, Monsieur José Germain fait le 3 septembre à l'Union littéraire du Vichy une conférence sur le culte des Gaulois, des héros, pardon, de Vercingétorix à Pétain. Et pour lever la Légion, à qui fait-on appel? Aux Gaulois, pour les chantiers de jeunesse, aux Gaulois. Les Gaulois sont partout et ils vont le rester encore. Avant de conclure, je voudrais terminer sur la scène de la reddition, parce que c'est elle qui imprègne souvent les esprits. Vercingétorix, sortant d'Alésia, allant vers César, jetant ses armes à ses pieds, lui est à cheval, César est assis. Lorsque j'ai repris le dossier Vercingétorix, je me suis dit, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde. On est le lendemain de la défaite. On est en train de brûler ou d'enterrer les morts. Mais Vercingétorix est toujours là-haut, avec ses Gaulois. Il va y avoir sur les retranchements des sentinelles, se disant, est-ce qu'ils ne vont pas tenter une dernière sortie? Comment est-il possible que la porte s'ouvre, Vercingétorix soit à cheval avec toutes ses armes, il va se rendre au camp de César? Mais il aurait été exterminé en l'espace de quelques secondes. Donc ça ne va pas. Mais si ça ne va pas, où trouver l'explication? Alors, relisons César. Le lendemain, Vercingétorix, le lendemain de la défaite, convoque l'Assemblée. Il déclare que cette guerre n'a pas été entreprise par lui à des fins personnelles, mais pour conquérir la liberté de tous. Puisqu'il faut céder à la fortune, il s'offre à eux. Ils peuvent, à leur choix, apaiser les Romains par sa mort ou le livrer vivant. On envoie à ce sujet une députation à César, ce qui est normal. Il ordonne qu'on lui remette les armes, qu'on lui amène les chefs des cités. La troisième clause, généralement, c'est qu'on lui remette aussi les chevaux. Mais des chevaux, il n'y en a plus. Les Gaulois, mourant de faim, les ont tous mangés. Il s'installa au retranchement devant son camp. Bizarre, pourquoi? C'est là qu'on lui amène les chefs. On lui livre Vercingétorix. On jette les armes à ses pieds. Alors, voyons le texte latin. On va faire un peu de latin. Iubet, il ordonne, arma tradi, que les armes soient livrées. Principes produci, que les chefs soient produits, soient amenés. Bon. Lui-même, in munitione, lui-même, sur le retranchement, devant le camp, quand c'est dit, va s'établir. Les chefs sont amenés, Vercingétorix est remis, les armes sont projetées. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, les armes sont projetées? Eh bien, il y a un autre texte de César, extrêmement intéressant, qui remonte à la deuxième année de la guerre des Gaules. Et c'est la seule fois qu'on nous explique comment se passent réellement les choses, pour la simple raison que les assiégés vont essayer de rouler César. On est chez les Atuatuques, un petit peuple belge qui a son établissement du côté de Namur. Donc César l'assiège, il commence à construire des machines de guerre, les types sont absolument épouvantés, ils n'ont jamais vu ça, et ils veulent se rendre. Donc ils envoient une députation à César en disant, écoute, on est prêt à se rendre, mais on te supplie d'une chose, c'est... Laisse-nous nos armes, parce que nous avons des voisins qui nous détestent, et si on est désarmé, on est foutu. César répondit que ses habitudes de clémence, plutôt que leur conduite, l'engageaient à conserver leur nation s'ils se rendaient avant que le bélier eût touché le mur. Donc s'il y a un coup de bélier, il n'y a plus de grâce. Mais il n'y avait de capitulation possible que si les armes étaient livrées. Il agirait comme il avait fait pour les Nerviens, il interdirait à leurs voisins de faire le moindre tort à un peuple soumis à Rome. Les députés rapportèrent à leur peuple ces conditions et vinrent dire qu'ils s'y soumettaient. Et alors, une grande quantité d'armes fut jetée du haut du mur dans le fossé qui était devant la ville. Elles s'élevaient en monceaux presque jusqu'au sommet du rempart et de notre terrassement. Donc les armes sont projetées, ça veut dire que c'est du haut de la ville qu'on projette toutes les armes. Et César est allé s'installer sur le retranchement pour regarder si la condition était bien respectée. Et ce sont les armes de tous les types qui étaient à Alésia qui sont venues s'accumuler dans le fossé. Évidemment, pas au pied de César. Alors, d'où est venue ensuite cette espèce de confusion extraordinaire? Eh bien, à mon sens, c'est parce que la fin de César, ce texte-là, n'était pas satisfaisant. Tout son livre 7, était organisé au fond comme un western. César contre Vercingétorix, vous aviez des affrontements, des trucs comme ça. On attend qu'ils sortent dans la rue, chacun à une extrémité, et puis le premier qui va dégainer. Or là, la fin est plate, on lui livre Vercingétorix. Point. Les armes sont jetées. Et alors, des esprits ultérieurs, des gens qui ressemblent un peu à notre Alexandre Dumas, se sont mis à broder autour de ça. Et la force de ces broderies a été telle que même quelqu'un qui est un grand savant, comme Constant, un des meilleurs latinistes qu'on ait eu, il a dans la tête ce cliché, la force du mental, et la force aussi, sans doute, de tous ces tableaux que nous avons vus. Alors, pour conclure, quelle image on va garder de Vercingétorix? Moi, j'aime bien Astérix de l'époque Goscinny, pas la suite. L'horrible navet avec Christophe Lambert. Non, heureusement, il n'a eu aucun succès, et j'en suis ravi, parce que lui, comme accumulation de poncifs, il n'y avait pas mieux. Alors moi, ce que je préfère, c'est la monnaie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une polémique sur cette monnaie. Plus exactement, les numismates pensent que, contrairement à ce qui a été dit pendant longtemps, il ne s'agit pas du tout d'un portrait de Vercingétorix, même s'il y a le mot « Vercingétorix », il s'agit d'une image du dieu Apollon, tel qu'on le voyait sur les pièces de l'époque d'Alexandre le Grand et juste après, les statères d'or qui justement ont été imités par certains peuples gaulois. Et que ce serait donc la dérivation de l'image d'Apollon, mais vous voyez à quel point cette image-là a été importante aussi dans la représentation picturale de Vercingétorix. Alors, bon, c'est sans doute pas lui. Ça a peut-être une petite chance que ça soit lui, très faible. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de garder au fond du cœur ce qu'on m'a appris quand j'étais tout petit. Je garderai toujours l'image du jeune chef gaulois, hein, beau comme un dieu, héroïque, et qui a perdu. Je me rappelle des signes de piste. On voyait les légions gauloises contre les Romains. Alors, bon, je sais bien que ce n'est pas vrai. Je sais bien que cette monnaie, elle a toute chance de représenter Apollon, mais on n'en est pas sûr à 100%. Et il faut toujours qu'il y ait une petite part de mystère dans l'histoire, sinon ça ne vaut pas la peine d'en faire.
C'était les lundis du Collège de France à Aubervilliers, avec ce soir Christian Goudineau, professeur au Collège de France. Équipe de réalisation, Philippe Palares, Dominique Briffaut, Christine Goémé. Nous retrouverons samedi et dimanche prochain à la même heure les lundis du Collège de France à Aubervilliers. Et en attendant, très bonne semaine à tous, à l'écoute de France Culture.